the 45th President of the United States of America, Donald J. Trump.
Un jour dans le monde.
And God bless America.
Sur France Inter.
Trump à la Maison Blanche, notre rendez-vous du lundi avec Frédéric Carbone à Washington. Et cette semaine, Frédéric, est marqué par la première grande bataille de la présidence Trump, j'ai nommé la réforme de la santé.
En effet, nous y voilà en pleine empoignade parlementaire qui, pour le moment, mais on n'en est qu'au début, se cantonne presque à un affrontement interne au camp républicain. L'acteur principal, c'est Paul Ryan, le numéro 1 de la Chambre des représentants. C'est lui qui porte le projet censé remplacer l'Obamacare. Il fait la tournée générale avec ses graphiques montrant comment tout va aller mieux. Et il a un message, ce plan, il est à prendre ou à laisser.
This is the closest we will...
C'est le mieux que nous puissions faire pour abroger et remplacer l'Obamacare. Le temps est venu, c'est le moment, et nous n'avons jamais été aussi près du but. Cela se résume à un choix binaire.
Vous le voyez, Paul Ryan veut aller vite. Seule condition pour que sur un sujet aussi sensible, la réforme ne s'enlise pas. Le projet a déjà été adopté par deux commissions et les républicains ont une confortable majorité à la Chambre. Seulement problème, la frange conservatrice est furieuse pour ces radicaux qui réclament une abolition pure et simple de la loi actuelle. Il s'agit d'une version allégée de l'Obamacare. Jim Jordan se fait le porte-parole de ses élus.
Faisons cela bien et surtout faisons ce que nous avons promis à nos électeurs. Je ne pense pas que ce plan soit bon pour les familles qui travaillent dur. Tous les conservateurs sont opposés à ce projet qui est une autre version de l'Obamacare. Nous n'avons pas dit à nos électeurs que nous allions garder des pans entiers de cette loi. C'est cela que détestent les électeurs. Donc faisons ce que nous avons dit et ce qu'ils attendent de nous.
Le lobby est puissant. Ses élus sont soutenus par de riches groupes d'intérêts. Sarah Palin, la madone des Tea Party, est de leur côté. Bref, ces gens qui ont été les fers de lance de la guerre de tranchées qui a duré des années contre l'Obamacare, eh bien, ils ne se retrouvent pas dans ce projet.
Et puis, Donald Trump, lui, ne se contente pas d'être spectateur. Frédéric, il joue gros, il joue même très gros dans cette bataille.
C'est un moment très important pour lui, parce qu'il a été élu sur une double promesse. Certes, mettre un terme à cette loi détestée dans son camp, mais avec aussi l'engagement que les 16-20 millions d'Américains qui ont un meilleur accès aux soins ne le perdent pas. Autrement dit, la quadrature du cercle, d'où les contorsions législative. Alors il s'implique, Donald Trump, il fait pression sur ses élus sceptiques, il les cajole également en les recevant à la Maison Blanche, il a même dîné en famille avec son meilleur ennemi de la campagne, le sénateur Ted Cruz. Tout cela est d'autant plus important que lui, le flambeur new-yorkais, a fait alliance objective avec ses conservateurs. C'était indispensable pour être élu et maintenant, il le lui rappelle, voici Raoul Labrador, représentant de l'Idaho.
Le président Trump ne doit pas oublier que quand les choses allaient mal pour lui pendant la campagne, ce sont des gens comme moi qu'il soutenait, alors que de nombreux dirigeants républicains pensaient qu'il n'avait aucune chance de gagner. Donc maintenant qu'il a gagné, nous allons l'aider à tenir les promesses qu'il a faites aux Américains.
Donald Trump se retrouve ainsi au milieu de la bataille, une sorte d'arbitre entre les courants républicains. Il y a un vrai risque politique pour lui. Et là où l'enjeu est énorme, c'est que dans de nombreux États industriellement sinistrés, où le vote Trump a été très fort, eh bien c'est là aussi où l'on retrouve le plus de gens à qui la réforme actuellement en discussion rendra l'accès aux soins plus cher, donc plus compliqué.
Oui, car l'essentiel, Frédéric, ce sont bien les conséquences sur les Américains les moins fortunés.
Absolument, voilà des millions de gens qui aujourd'hui s'interrogent et se demandent s'ils pourront continuer à faire leurs examens médicaux, s'ils pourront se payer les traitements, si la médecine préventive restera abordable. Et une des grandes inquiétudes, c'est la perspective de limiter l'impact de Medicaid, cette aide médicale fournie par les États aux patients les plus modestes, question parfois de vie ou de mort, comme pour Rebecca dont la fille de 4 ans a besoin depuis sa naissance de traitements très lourds.
S'ils suppriment Medicaid comme ce nouveau plan le prévoit dans mon État, alors je ne sais absolument pas quelle sera ma couverture. Est-ce que je pourrai nourrir ma fille et lui fournir les soins dont elle a besoin pour grandir et devenir une adulte indépendante? C'est déjà très cher et ça sera pire. Ma crainte, c'est que sans assurance et sans aide, tout cela me sera coupé.
Des cas comme celui de cette mère de famille qui vit en Virginie, il y en a partout aux États-Unis. C'est pour cela que des gouverneurs et des sénateurs, républicains comme démocrates, préviennent qu'il faudra faire très attention. Autrement dit, après la fronde actuelle des radicaux, il y aura dans un deuxième temps la rébellion des modérés. Tout se passe comme si, Nicolas, après avoir contesté une réforme à cause du nom Obama qui lui était accolé, de nombreux Américains voyaient désormais avant tout le bénéfice qu'ils ont pu personnellement en tirer.
Allez, pour finir, Frédéric, quelques mots des débuts, comment dire, délicats de certains ministres de Donald Trump.
Effectivement, on a parlé du patron de l'Agence de l'environnement qui a subi la bronca des scientifiques après avoir dit qu'il n'y avait aucune preuve que l'activité humaine et le CO2 soient à l'origine du réchauffement climatique, mais au rayon révisionniste, difficile de faire pire que Ben Carson. Dans son premier discours de ministre de la Ville, il se lance dans une défense de l'immigration au point de confondre migrants et esclaves.
Il y a d'autres immigrants qui sont arrivés ici, enchaînés dans les cales de bateaux. Eux aussi avaient des rêves. Ils voulaient que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent être prospères et heureux.
Voilà pour les propos de Ben Carson, lui-même africain-américain, qui avait déjà comparé l'avortement à l'esclavage. Tollé, vous l'imaginez, des associations antiracistes, mais Ben Carson persiste en affirmant qu'il y a des immigrants involontaires. On est bien parfois dans un gouvernement de la réalité alternative.
Frédéric Carbone à Washington.